Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. On est bien en ligne ce soir, c'est dans quelques instants la case de Seb. On va parler ce soir de polar, comme d'habitude, d'hôtels, de super-héros, de romans et d'animés. Mais tout d'abord, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Trouvez vite. Il est parti de moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va basculer directement dans vos esgourdes. Vous avez vu, je mets des super mots. Le plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga. Seb au micro, on est là pendant une heure et je ne suis pas tout seul, je suis avec Luc.
Hello, salut.
Je suis également avec Richard.
Salut.
Et Nolwenn.
Bonsoir.
Eh ben, quelle fabuleuse Dream Team ce soir.
Tu t'auto-satisfais là.
Ouais, je suis à fond.
C'est nous qu'on est la Dream Team.
Bah, et en même temps...
C'est vrai.
Voilà, on fait des trucs super sympas. Si j'étais tout seul, ce serait moins drôle. Et puis les auditeurs s'ennuieraient peut-être, donc voilà. Et comme les auditeurs, ils veulent pas venir dans le studio, voilà.
On essaye d'en ramener.
C'est pour entrer facile, il suffit de franchir la porte et vous ne repartirez jamais.
Vous ne repartirez jamais. D'ailleurs, si vous souhaitez nous parler, n'hésitez pas à communiquer directement dans le chat. Vous allez sur le site de Radio G, onglet chat, et puis vous pouvez nous parler. On est là, on va essayer de vous répondre. Ça donne des trucs plutôt sympas quand il y a du monde. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Je vais commencer peut-être à ce moment-là si vous êtes motivé.
C'est toi le chef.
Mais c'est pas avec les chroniques que je vous ai données. On va d'abord parler de trucs un petit peu plus enfantins avant d'attaquer le gros du sujet. Je vais vous parler de Limbo Hotel de Enrique Fernandez, publié chez Spaceman Project. Est-ce que ça te parle, Luc ? Pas du tout.
Pas du tout.
Bah, je te le bascule. Tu peux le feuilleter. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, la page intérieure, on a des moutons avec des lettres d'alphabet en fait dessus, ce qui est un petit peu bizarre. Et du coup, quand on commence à le lire, on se dit, tiens, c'est une BD muette. Puisqu'effectivement, on suit un vieux personnage qu'on pourrait prendre pour un vieux breton, puisqu'il y a un impair, il a la tête bougonne avec la grande barbe, il est dans un endroit où il a pas l'air de faire ultra ultra beau, et on va suivre son quotidien. Visiblement, il est manchot et il a une prothèse qui s'adapte à chacune des tâches qu'il va faire. Balayer, renforcer avec un marteau, aller creuser du jardinage. Et on le suit et on est rythmé uniquement aux plops, aux onomatopées qui sont liées à cette prothèse. Et on a l'impression que ce monsieur s'ennuie un petit peu puisque du coup il peint des lettres sur des moutons. Et en fait, on apprend quelques instants plus tard qu'il se sert de ses lettres sur les moutons qui sont dans un pâturage juste en bas de chez lui. Et il les regarde par la fenêtre et en fait, il essaie de composer des mots avec les moutons qui sont dans l'encadrement de sa fenêtre. Truc plutôt drôle.
On appelle ça le Scrabble.
Oui, c'est ça.
Mais du Scrabble mouton, du coup.
Il y avait un autre jeu aussi où c'était dans une... il fallait secouer.
Oui.
Je sais plus comment ça s'appelle.
C'est le Buggles.
Le Buggles.
Eh ouais. Ouais, dès qu'il y a un jeu, je connais. Et du coup, on sent que ce petit vieux, grosso modo, s'ennuie quand même pas mal tout seul, puisque si au départ, on nous détaille vraiment sa journée case par case, les pages d'après, on va nous refaire le condensé de sa journée avec les mêmes onomatopées, mais de plus en plus condensées. Jusqu'à ce qu'une des onomatopées change, celle d'un débraillement d'un gamin. Et du coup, on se dit, tiens, quelque chose va changer dans sa routine et ça va le bousculer. Mais quelle est l'histoire de ce vieux monsieur ? Quelle est l'histoire de ce gamin, de ce bébé, puisque c'était plus un bébé ? Ça, je vous laisserai le découvrir, parce que c'est l'autre moitié, on va dire, de cette histoire. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup, on a très peu de personnages, on a très peu de choses. Par contre, on a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces personnages? Quelle est leur vie? Quel est leur vécu? Pourquoi ce petit monsieur, il est arrivé à cette espèce de routine? Pourquoi il entretient cette routine? Qui est ce gamin? Pourquoi il a été abandonné? Eh ben, je tiens à vous préciser que vous n'aurez pas toutes les réponses à la fin. Mais c'est pas grave. Faudra le lire pour ça. Et c'est à la fois captivant, fascinant de regarder cette BD, je veux dire ce manga, alors que c'est pas un manga et que c'est vraiment sympa. Graphiquement, j'ai l'impression que ça a été fait à la tablette graphique, parce qu'on est sur beaucoup d'aplats, il y a pas mal de masses de noir en fait qui sont données, mais c'est un rendu qui est très agréable. Il y a un côté très enfantin, même si l'histoire elle est pas si enfantine que ça. Il y a une part un peu sombre derrière qui se cache.
J'ai lu le synopsis derrière. Ouais.
Et c'est vraiment très intéressant à lire. Hernandez a un style graphique qui lui est assez propre. J'ai du mal à le qualifier, ce style-là, en fait, Luc.
C'est très hybride, hein. C'est très hybride parce qu'on a à la fois des personnages très particuliers qui pourrait faire penser à des personnages de manga, mais par contre les décors sont très travaillés. Enfin, c'est je vois là un paysage tout en gris avec une maison, des montagnes derrière, et je trouve que graphiquement c'est vraiment intéressant. Les paysages sont assez étonnants. Oui, ça doit être fait à la tablette graphique, hein, certainement, hein,
parce c'est la sensation que ça me donnait, en fait.
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, et puis ce paysage unique avec cette espèce de contrefort, de bord de mer, de falaise, c'est ce qui est étonnant, c'est l'écart qu'il y a entre les personnages et les paysages. Il y a vraiment un double, c'est très hybride, en fait, hein. Mais ouais, je trouve ça vachement beau, hein.
Moi, j'ai été captivé, en fait, par ça, parce que vraiment, il y a plein de petites interrogations. J'ai dit qu'il y avait que deux personnages. C'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres personnages qui interviennent. Et il y a les moutons.
Et il y a une arête de poisson.
Et même sur la couverture, on voit beaucoup plus que deux personnages.
Mais complètement. Mais il y a des trucs comme ça qui viennent dedans et qui posent des questions. Et c'est un ouvrage qui pose vraiment beaucoup de questions et qui laisse le lecteur comprendre un petit peu tout ce qu'il y a, en fait, à comprendre. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé. Je dirai rien sur la fin parce que il y a un petit twist final. C'est pas une fin qu'on attend. Mm-hmm. C'est pas un dénouement auquel on peut s'attendre. Donc, c'est assez particulier. C'est un sentiment un peu bizarre de mi-joyeux, mi-déçu, mais complètement intéressé, en fait.
Luc est parti directement à la fin.
C'est pas un manga, tu t'es trompé.
C'est pas un...
Non. Ça n'a pas de sens.
J'apprécie Nolwenn. J'apprécie beaucoup cet accompagnement que tu produis auprès de moi pour me permettre de comprendre les objets que j'ai dans les mains. Mais je te revaudrai ça.
Allez, ça balance des attaques comme ça. Allez.
C'était ma deuxième réplique.
C'était ta deuxième réplique. Voilà, donc n'hésitez pas à lire Limbo Hotel, qui est publié aux éditions Spaceman Project. T'aimes bien la couve?
La couve, ouais. Avec les moutons qui font le welcome.
En fait, il y a plein de petits mots comme ça. Et j'ai cherché, j'ai essayé de faire du mot croisé, en fait, avec les pages intérieures. Parce qu'on a plein de moutons, moi, les mots qui viennent, c'est pas des mots joyeux, donc j'ai pas compris. C'est peut-être juste moi.
Hein?
Non, mais
qu'est-ce
voilà.
Qu'est-ce que tu lis?
Il y a un endroit, tu peux faire murder de mémoire. Enfin, bref.
Ouais, c'est trop bien.
Ouais, mais c'est un truc super joyeux, les meurtres. Hein?
Oui.
Puis
Luc,
mais oui.
Non.
Ah non. Bah Luc tout de suite qui reprend la BD. Hein.
Oui, je.
Ouais, mais j'étais peut-être fatigué. J'arrive pas à le retrouver, le meurtre.
Tu confonds peut-être avec Shining.
Red Rum. Mais ouais, un album vraiment sympa, mais étrange parce que il laisse une sensation un peu particulière à la fin. Donc ouais.
Un peu dense pour un enfant peut-être. Enfin, il a l'air long, tu vois.
Non, parce qu'en fait il y a très peu de texte.
Ça va vite.
Ça va vite, mais il y a très peu de texte. Le premier mot vraiment prononcé, il intervient à la page 20, 22, 23.
Ok.
Après tout ça, c'est que des onomatopées. Et un gamin, quand tu lui dis pouf, pof, tac, toc, clic, cloc, il comprend ce qui se passe. Et après, il y a, voilà, il se passe des choses qui sont, voilà, faut regarder, faut le lire, faut. Le gamin, il accompagne le lecteur, en fait, et il va permettre de découvrir un peu ce qui se passe. Donc,
Alors, au risque de peut-être spoiler, mais du coup, on est d'accord que le vieil homme ne parle pas.
Si, à un moment, j'ai vu.
Si.
Oui, mais du coup, il récupère l'enfant. Comment l'enfant il apprend à parler s'il est accompagné
par...
Non,
c'est un enfant qui arrive, qui découvre ce personnage et tout ça.
D'accord, ok.
C'est un bébé.
Il découvre un bébé.
Ah non, bah
ouais, du coup, il découvre un bébé. Donc, comment l'enfant, il apprend à parler, en fait?
C'est le vieux qui lui apprend, mais.
D'accord.
Okay. Il y a. Tu vois?
Ah, j'avais pas compris. Okay.
Non, c'est un bébé. C'est un bébé.
Ok.
Hop. Et puis, il grandit au fur et à mesure. D'accord. Et puis, on se rend compte que. Il y a une autre routine qui s'installe. Mais il faut le découvrir. Lisez-le. Vraiment, c'est à la fois étrange, fascinant et passionnant. Donc, voilà. Donc, je redonne un Limbo Hotel, Enrique Fernandez, Spaceman Project. Donc, voilà, allez-y. Ça change un petit peu des grosses productions aussi qu'on peut avoir sous certains angles. Donc, faut pas hésiter.
C'est aussi l'intérêt de l'album que tu viens de présenter, c'est que il ressort pas d'un genre particulier ou d'une forme particulière. Il ouvre des perspectives et moi je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça tout à l'heure que je parle, enfin que le mot qui me vient à l'esprit quand je le regarde, c'est le mot hybride, c'est-à-dire que c'est pas du manga, c'est pas du comics, c'est pas de la série Disney, c'est autre chose. On est vraiment dans autre chose et je trouve que c'est bien de donner à des gamins des images qui peuvent susciter ou réveiller l'imaginaire ou le mettre en marche cet imaginaire, et j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner avec cet album là
et en plus c'est un album où les enfants vont piocher certaines choses mais pas les adultes vont piocher d'autres choses. C'est vraiment, il y a vraiment deux gros niveaux de lecture, voilà.
Ouais, c'est le genre de BD qui, du coup, c'est un one shot. J'imagine que ça peut être suite.
Il y a écrit fin à la fin.
Voilà.
Donc
il y a écrit fin à la fin. C'est une fin qui pourrait amener autre chose derrière, mais qui se suffit à elle-même.
Ouais, c'est le genre de BD qui va construire un univers entre la première de couverture et la quatrième de couverture. Tu ouvres la BD, t'es dans un univers très précis et ça s'arrête là.
Même si je ne le cache pas, on vous tease beaucoup avec cette fin-là, mais c'est une fin qui est globalement très déceptive.
Ça me fait penser à une autre BD, et vraiment, je vous jure, ça fait un quart d'heure que je cherche le nom de cette BD. Je vous raconterai pas la fin, parce que de toute façon, je m'en rappelle pas. C'est une BD qui met en scène une jeune fille qui vient avec un jeune renard, et il y a c'est assez contemplatif, c'est presque très mélancolique, ça parle du deuil. Donc, c'est une BD qui s'adresse aux enfants et ça parle du deuil, c'est amené d'une façon très poétique. Et je n'arrive pas à retrouver le nom, c'est... Voilà, si jamais vous tombez sur une BD, et vraiment, je me rappelle très bien la couverture, par contre, c'est le personnage, du coup, c'est le renard qui est en première de couverture, un petit renard orange, et il y a des ailes de corbeau noir, en fait.
Oh, ça me parle, j'ai déjà dû lire ça, mais je n'arrive pas à remettre le nom
et
dessus.
Et voilà, si jamais vous tombez sur une BD où le personnage est un petit renard et qu'il y a des plumes de corbeau qui sont autour de lui, c'est sûrement cette BD à laquelle je pense et qui parle, qui me fait penser au style en fait de celle-ci. Et au sujet abordé aussi peut-être.
Et ben, bon bref, on va pas s'attarder encore plus dessus parce que sinon on va y passer on pourrait passer toute une heure dessus, hein, mais ce sera un petit peu dommage. Je vous propose de faire une petite pause musicale parce que ça fait mine de rien quasiment un quart d'heure qu'on parle.
Tout à fait.
Quoi ?
Tout à fait.
Tout à fait. Mais je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'ai dit. Et je vais vous mettre alors ce sera une courte pause musicale, je vais vous mettre un générique d'animé, puisque ça va être le générique de l'animé qui est adapté du manga dont je vais vous parler juste après.
Ok, en rapport. Voilà. Oui.
Bon, bah dis donc, t'as de la suite dans les idées, hein.
Ouais,
quelle émission, mais quelle émission.
Incroyable.
Allez, je laisse avec Chelmiko et Easy Breezy.
Imagination meter
Allez, Easy Breezy de Chelmico sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. C'est toujours Seb au micro avec Luc Nolwenn et Richard pour m'accompagner. Je vous ai passé ce générique pour une raison assez simple, c'est qu'on va parler du manga qui a donné naissance à cet animé, à savoir Aizoken, pas touche à nos animés. Alors moi quand on m'a dit pas touche à nos animés, je vais vous les passer, vous allez pouvoir regarder,
oui.
Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement quand on parcourt le manga, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Le synopsis il est plutôt simple, on suit une jeune fille qui est fan d'animé et qui a une amie qui est plutôt fan de pognon.
Quoi?
Ouais, elle pense que rentabilité.
Ah d'accord.
Et un jour, elles vont faire la connaissance d'une autre jeune fille qui est elle aussi fan d'animé et elles vont décider de monter ensemble un club d'animé, un club d'animation dans leur école.
Ah d'accord, ok.
Problématique.
Oui.
Il existe déjà un club d'animé, un club de mecs, enfin de gens qui regardent des animés. Donc il ne peut pas y avoir un deuxième club d'animé.
Ah parce que ça, c'est, oui, c'est, alors c'est déjà arrivé dans d'autres mangas animés tout ça. En fait, il peut pas y avoir le même nom.
C'est ça.
Et ouais, ok, je vois la problématique.
Donc là, elles vont gruger, elles vont faire un club de cinéma dans lequel elles vont faire un film d'animation.
Mm-hmm.
Ça, c'est des filles, ça, c'est bien.
Elles sont
c'est bien des
complètement
idées de filles,
barrées. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a deux personnages qui sont des nana plutôt lambda, et on a la troisième qu'elle rencontre un petit peu plus tard, qui est la fille héritière d'un richissime homme d'affaires et qui se fait tout le temps courser par ses gardes du corps qu'elle essaie de semer parce qu'elle, elle aimerait bien juste vivre une vie standard. Et du coup, elles vont monter ce club. Et c'est vraiment un manga qui est un hommage à l'animation, puisqu'on voit tout ce qui est nécessaire à la création d'animation. Mmh. C'est pas parce qu'on est capable de dessiner des bonhommes, ou qu'on est capable de dessiner des décors, qu'on est capable de faire de l'animation.
Mmh.
Et on va se poser toutes ces questions-là, et elles vont être intégrées complètement à la diégèse du manga. C'est-à-dire que les filles, à un moment, elles vont se mettre à dessiner une espèce d'ornithoptère, et elles vont se poser plein de questions pour que cet ornithoptère, il soit viable. Est-ce qu'il faut qu'il décolle de telle manière? Est-ce qu'on peut accéder? Comment on le recharge? Et elles vivent littéralement, en fait, leur création, dans des péripéties qui sont complètement dingues. Et il y a plein de petits trucs très bizarre dans ce manga, c'est-à-dire que dès le premier tome, on se rend compte que les bulles, elles peuvent être orientées selon l'orientation du personnage, ce qui rend leur lecture à la fois complètement cohérente avec l'orientation du personnage, mais hyper dure pour nous en tant que lecteurs. Et ça rend le truc complètement barré. Graphiquement, vous avez vu les personnages, on est sur aucun standard qu'on peut avoir. Les personnages, ils ont des espèces de visages un peu rectangles, ovales, avec des formes géométriques. C'est très étrange. Et en même temps, je suis complètement rentré dedans. Donc c'est complètement barré. Moi, j'avoue que j'ai vraiment accroché. Donc c'est voilà. Je tenais à en parler parce que des mangas qui parlent d'animation ou de création de manga, on en a pas tant que ça. On a Bakuman qui explique par le menu comment faire des mangas, mais comment faire un dessin animé, ben on en a pas beaucoup.
Non, effectivement. Ça a l'air barré parce que comment ça s'appelle cette partie-là?
La jaquette? Non.
Ouais, la jaquette, mais ça il y a
le premier rabat.
Sur le rabat du tome 3 en tout cas, moi de ce qui est de mon côté, il y a plein de petites anecdotes sur le tome 1, sur le tome 2, sur le tome 3, des infos qui indiquaient inutile donc indispensable. Genre oui, pourquoi tel personnage il a un vélo sans selle à ce moment-là? OK, d'accord.
Alors c'est rigolo parce que ça rappelle aussi ce qu'on a pu voir sur d'autres mangas il y a quelques années. Masamune Shirow qui a créé Ghost in the Shell, si vous connaissez pas,
oui,
avait pour habitude de faire des pavés de 4 ou 5 lignes dans les marges de ces cases pour expliquer certaines incohérences ou certains trucs qu'on aurait pu reprocher d'incohérence, et il expliquait tout. Ce qui fait qu'il y avait autant à lire entre les cases que dans les cases.
D'accord.
Donc ça y est... Voilà.
Si, toi aussi, t'as les détails inutiles?
Non, j'ai simplement... Là, j'ai la bio de...
Alors non, de l'autre côté.
Le dernier rabat.
Ouais.
Non, il n'y a rien.
Non, il n'y a rien.
Toi, Nolwenn, elle en a.
Il est nécessaire de nettoyer les écrevisses avant de les manger, donc personne ne déguste réellement ce qu'il vient de pêcher. Voilà.
C'est de la philosophie.
C'est de la philosophie. Ouais, hein. C'est ça. C'est...
Là, écoute, jamais tu ne te baigneras dans la même eau. Bon, très bien.
Alors en France, on a le troisième tome qui vient tout juste de sortir. C'est sorti en novembre de l'année dernière, en septembre de l'année dernière, le premier tome. Faut savoir qu'en 2020, donc là où c'est sorti en animé au Japon, on a eu série animée, un drama et un film en live action.
Oh, d'accord.
Alors je connais pas le drama, j'ai pas vu le live action. Par contre, l'animé, allez-y, il y a des techniques d'animation qui sont complètement dingues. C'est vraiment une expérience visuelle qui est à expérimenter. C'est très drôle. Moi, je me suis vraiment éclaté. Et le générique que vous avez pu voir tout à l'heure avec les personnages qui bougent et qui font une espèce de choré, il a été confié à l'auteur du manga et c'est sa première réalisation animée.
D'accord.
Donc, on boucle la boucle, on fait de la méta dans tous les sens et ça passe. En France, 3 tomes pour l'instant. Il y a 8 tomes en cours au Japon pour l'instant. Donc c'est pas une série qui pour l'instant va être trop longue, mais voilà. Hésitez pas, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment drôle, et vous allez apprendre des trucs sur les techniques d'animation, sur parce que les gamines elles vont créer leur club, mais il faut qu'elles achètent du matos, il faut qu'elles rentabilisent. Et il y a toujours la nana derrière qui pense tellement au pognon qu'il faut rentabiliser le club. C'est-à-dire qu'on achète du matos, mais il va falloir qu'on l'amortisse, et elle fait des plans qui sont complètement barrés. Donc c'est vraiment une série qui est excellente, que je pense n'est pas trop assez mise en avant. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai pas donné les références, ce que je n'ai pas fait. Est-ce que tu veux le faire?
J'ai deux petites infos, si tu veux.
Vas-y, je t'en prie.
Le manga, donc version japonais.
Oui, 8 tomes.
8 tomes, commencé en 2016. L'animé, 12 épisodes et une saison donc. Ouais. Le drama, 6 épisodes. Et le film est sorti en 2020.
Yes. Donc, série courte, à la fois en manga et à la fois en épisode, donc voilà, n'hésitez pas.
Et donc, pour rappeler, il s'agit de Aizoken Patusha no Zanime chez Nobidomi, hein, que ferait-on sans Nobidomi, de Sumito Owara.
Et ben voilà, allez-y.
Ça a l'air cool.
Ah, moi, j'ai vraiment kiffé. Elles sont complètement débiles en plus. J'ai une appétence pour les personnages un peu débiles.
T'as regardé l'animé ou pas?
J'ai pas eu le temps. Je voulais, en fait, pourquoi j'en parle maintenant qu'au tome 3, c'est que je voulais vraiment mater toute la saison de l'animé. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai regardé 2 premiers épisodes pour me donner un peu ce que ça donnait. C'est vraiment sympa. Mais je sais pas si j'aurai le temps de dans un délai raisonnable, de tout regarder pour pouvoir en parler. Donc,
veux-tu que je m'en charge?
Eh ben, si ça te fait plaisir.
Je m'en charge.
Allez. Bon. Mission accomplie. Tiens, cadeau. Je donne la fiche.
Je pique les mangas.
En fait, c'est purement intéressé. Cet individu est vénal.
Qui ça, moi?
Oui.
Moi? Mais je lui propose. D'accord, ok. Ok, Luc. Démerde-toi.
Non.
Tu en parleras à Luc.
En plus, non seulement il est vénal, mais susceptible.
Moi susceptible?
Jamais. Allez, bon, on arrête les âneries.
C'est pas moi.
Eh ben, on va redescendre. On va aller dans un endroit beaucoup moins drôle, avec du polar. Allez, hop, il est là, le générique.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh bien, je peux vous dire qu'il y a quand même de la magie dans le 9e art. Et pour le vérifier, il suffit seulement d'être vigilant, d'ouvrir les yeux et de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et souvent, le miracle se produit, la rencontre avec un album étonnant, bouleversant, émouvant. Mais ça, on le sait, que si on a fait l'effort de chercher, de soulever une couverture au premier abord un peu too much, de ne pas s'arrêter juste au titre, un peu trop accrocheur.
Luc et l'art du teasing, c'est trop bien.
En fait, c'est pour vous dire que si vous croisez sur votre chemin un album aux couleurs criardes, au graphisme fleurombon ces années 70, au titre ronflant, je veux parler de l'album « Le dictateur et le dragon de mousse » de Tillon et Freyway, et publié par les éditions La Boîte à Bulles. Arrêtez-vous immédiatement et faites-en l'acquisition sur le champ. C'est même pas une injection, c'est un ordre. Vous allez découvrir une histoire incroyable dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de croire, et surtout un album somptueux.
Bon, mets fin au suspense, dis-nous de quoi ça parle, s'il te plaît, Luc.
Alors, l'histoire est sidérante. C'est celle de Shin Sang-ok, producteur et metteur en scène coréen, parti à la recherche de son ex-femme, l'actrice Choi Eun-hye, disparue depuis plusieurs semaines. Il va être kidnappé et se réveiller quelque temps plus tard en Corée du Nord. Là, avec la promesse qu'il retrouvera son ex-épouse, il lui est ordonné de relancer le cinéma nord-coréen. Mais il faut se plier aux règles de la Corée du Nord et tous les films doivent être à la gloire de la Corée du Nord, de son président dictateur Kim Il-sung, grand-père de l'actuel Kim Jong-il et du Parti communiste coréen. Il faut dire qu'étonnamment, Kim Il-sung est passionné de cinéma et surtout de cinéma d'action américain et qu'il voit tout ce qui se produit de Coppola à René en passant par Romero et Joe Dante. Et qu'il dispose en plus d'une vidéothèque privée de plus de 20 000 films. Si Shin Sang-ok a été enlevé, c'est parce que c'est un réalisateur coté, qui a une notoriété internationale, qu'il a déjà réalisé des films reconnus au box-office et qu'il a créé sa propre société de production. Emprisonné, maltraité, il va tenter une première évasion. Elle va échouer lamentablement. Pour punition, il va subir la pire des tortures, la simulation d'une exécution. Alors il va se prêter au jeu, réécrire des scénarios, les améliorer avec toujours en tête deux obsessions, retrouver son ex-femme et fuir à tout prix. Et si je vous disais que cette histoire est vraie, que ce ne sont pas les seules personnes à avoir été enlevées par la Corée du Nord. Il y avait aussi des Japonais. Kim Jong-il l'a reconnu officiellement en 2002. Il se dit par exemple que 3 Françaises font partie des personnes enlevées et selon un rapport de l'ONU datant de 2014, ce sont plus de 200 000 personnes de toutes nationalités qui ont été enlevées.
Alors d'accord, ça c'est des faits, mais est-ce que ça fait un bon album de BD ?
T'as raison. Cet album ne se résume pas qu'à l'histoire qu'il raconte, aussi troublante soit-elle. Il y a les dessins de Freeway. Et la Freeway en question, c'est un billet direct pour la Corée qu'elle nous offre. Déjà, chaque chapitre s'ouvre sur une fresque dans la plus pure tradition des peintures asiatiques faites à l'aquarelle. Et le reste est à l'avenant. Il y a une extrême dextérité dans la mise en page qui donne un vrai rythme. La séquence du combat de Kung Fu en est un exemple parfait. Mais plus loin, la tentative d'évasion, tout en dominante de bleu, est angoissante. Cerise sur le gâteau, elle est ancrée dans la technique de la nuit américaine, rappel évident au métier du cinéaste de Shin Sang-ok. Autre élément très fort dans cet album de plus de 120 pages, c'est la parfaite cohérence des physionomies des personnages qui vont traverser plus de 8 années, de 1978 à 1986. Ils vont vieillir, mais ils vont rester parfaitement identifiables. Je disais en introduction qu'acquérir cet album était quasiment un ordre et je mesure la force de cette injonction. Et s'il n'y avait qu'une seule raison, ce serait celle-là. Il est ce que doit être une œuvre d'art. Ne pas nous laisser le choix. Quand on en commence la lecture, on est immédiatement happé, d'abord dans l'incrédulité devant un scénario aussi improbable, mais tellement possible. Un peu comme dans ces romans de John le Carré qui ne nous laissent eux aussi jamais le choix. Et puis on est séduit par ce dessin si classique mais si exotique. Enfin, ce personnage de Shin Sang-ok est réellement attachant. On espère qu'une chose, c'est qu'il retrouve son ex-épouse Choi Eun-hye. Et puis il y a Kim Il-sung. Il est tellement machiavélique qu'à côté, le colonel Ulrich dans les aventures de Black et Mortimer fait vraiment pâle figure. Mais la dernière raison tient à la contextualisation en fin d'album qui rappelle l'histoire. Et là, on est assommé parce que pour ce qui me concerne, j'étais resté sur le fait que je venais de lire une fiction. Alors que dans la deuxième moitié du XXe siècle, un État enlève quasiment au vu et au su de tous des citoyens d'autres pays relèvent de l'impensable. Comme je l'ai dit plus haut, au moins 3 Françaises ont été concernées et personne n'en a parlé. C'est sidérant. Je suis persuadé, les amis, que vous avez bien compris la nature de mon enthousiasme, mais je suis sûr que vous comprenez mon ordre. Il faut acheter cet album. Et puis, une fois que vous l'aurez lu, vous aurez deux possibilités. Le ranger précieusement dans votre bibliothèque parce qu'il le mérite. Ou alors, la solution plus extrême, le donner à un autre lecteur pour lui donner le bonheur de découvrir cette BD et lui aussi de succomber à cette passionnante histoire du dictateur et du dragon de mousse. Cet album est excellemment publié par les éditions La Boîte à Bulles, une maison hautement recommandable.
Je ne vois pas quoi dire de plus en fait.
Rien.
Enfin, rien. Tu l'as excessivement bien vendu. La couverture, moi, elle m'aurait peut-être plus attiré que ça, parce qu'elle me rappelle les vieilles affiches de films qu'on a pu voir. Ça va avec le thème. Hein.
Oui, les Bruce Lee, enfin les.
Complètement.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Et
Moi, elle a plutôt un effet repoussoir, cette couverture. Je la trouve kitsch, chromo, kitsch. Mais en fait, dès qu'on entre dedans, quoi, ça décolle, quoi. Dès les premières bulles, dès les premières cases, on est pris dans cette histoire. Et moi, je la connaissais pas du tout, donc je l'ai lu comme une fiction, quoi. C'est quand on comprend qu'on ne lit pas une fiction qu'on est quand même scotché. Et puis c'est Freeway, la dessinatrice, a fait un travail éblouissant. C'est éblouissant.
Tu l'as mentionné, elle est de quelle nationalité, Freeway?
Alors, je ne sais pas. Elle a un nom à consonance africaine ou réunionnaise ou mais j'ai pas sa nationalité. Bon, j'ai pas fait de recherche, en fait.
Je suis dessus.
D'ailleurs, Richard va nous rechercher ça pendant qu'on... Mais moi, la couverture m'aurait vraiment attiré parce que j'ai l'impression d'avoir tous les thèmes du bouquin qui me sont déjà annoncés sur la couverture. Mmh. Et ça rentre en plus dans dans l'époque, en fait, à laquelle se situe le... Mmh. Donc ça a l'air d'être
hyper intéressant. Tout à fait, on est dans le début des années 80, quoi. C'est, voilà.
Il y a un petit prospectus.
Alors, il y a la reprise d'un chapitre, l'illustration d'un des chapitres, qui est extraordinaire. Et derrière.
Une estampe. Hein.
Ouais, une estampe. Et derrière, on a,
petite frise chronologique.
Une frise chronologique qui vraiment recontextualise complètement cette histoire.
Alors, on ne sait pas sa nationalité, mais Freeway était diplômé des arts décoratifs de Strasbourg. Donc
elle a travaillé dans les ateliers de La Pointe, Claude La Pointe. À cette époque-là, c'était les ateliers de Claude La Pointe.
Freeway, son vrai nom, c'est Frédéric Rich.
D'accord.
Déjà.
Ah, ça fait moins de consonance africaine, du coup. Oui. Eh ben, en tout cas, bravo, chapeau bas. Moi, je l'ai pas lu, j'ai parcouru pour l'instant, mais voilà. Donc, tu disais qu'il fallait le donner, c'est pour moi, du coup. Là, on perd pas le nord dans cette émission.
Oui, j'ai l'impression que.
Et c'est moi qui gratte des bouquins.
Non, mais au moins, je te l'emprunterai, tu vois.
Ouais,
je pense que ça peut être.
Bien sûr.
On va partir dans un autre univers. Je vais repartir sur une chronique dans laquelle j'avais envie de poser une question. Est-ce qu'il est possible de renouveler l'adaptation d'une œuvre déjà adaptée de nombreuses fois?
Oh, bah là, tu fais dans le sujet lourd, là. C'est du lourd de chez lourd, là.
Hein. Eh ouais. Mais effectivement, mais comme on n'est pas une émission d'analyse d'œuvre, je vais la traiter comme à mon habitude, sans prise de tête et surtout en m'appuyant sur ma dernière lecture. Alors, on va commencer par faire un petit jeu, ici dans le studio, mais aussi chez vous. D'ailleurs, j'ai pas regardé si les gens nous envoyaient des messages. N'hésitez pas, dans le chat, à participer. Je vais vous décrire la couverture, puis je vais vous la montrer, et j'aimerais que vous essayiez de deviner de l'adaptation de quelle œuvre il s'agit. Alors, vous avez un texte sous les yeux, évitez de griller un petit peu plus loin. Non, tu verras pas, pour l'instant c'est caché. Déjà, il s'agit d'un manga. Sa couverture est d'un noir passé, comme s'il était très usé. Sur certaines zones, on peut considérer que le cuir est comme endommagé. Au centre de la couverture, nous avons un encart avec une illustration qui représente deux personnages à la peau très pâle, et l'un des deux a les yeux rouges. Ils sont très proches, leurs mains sont entrelacées, et si la main d'un des deux est posée sur l'épaule de l'autre, celui avec les yeux rouges a la sienne qui parcourt la gorge de son collègue. Ils sont probablement féminins, même si c'est plus incertain pour l'un des deux. Les deux personnages sont vêtus de ce qui semble être une chemise de nuit avec des manches un peu bouffantes. Les personnages ont les cheveux longs et bouclés, et sur le sommet de leur tête se trouve une imposante couronne de fleurs. des pistes? Alors, je suis pas sûr que certains aient déjà deviné juste à cette description.
Moi, je me suis spoilé, donc.
Tu t'es spoilé. Bah, oui, tu joues plus, toi, t'as pas
le droit. Mais non!
Les derniers indices que je vais vous donner devraient vous donner la solution. Le texte de couverture est écrit en rouge. Et si le sous-titre Midnight Children pourrait vous mettre la puce à l'oreille, le titre hashtag DRCL ne devrait plus vous laisser de doute. Est-ce que vous avez la réponse?
Ben, je pense que oui. Enfin, sans donner DRCL, enfin, ça fait énormément penser aux vampires, donc.
Complètement.
Alors après, cheveux bouclés, chemise bouffante, c'est peut-être une version peut-être un peu plus victorienne du conte de Dracula, mais pourquoi pas?
Dracula, bah, on est ouais, pas loin.
Moi, hein. J'avais mis Nosferatu.
Eh ben, on n'est pas très très loin. Regardez. Un peu. Donc effectivement, ça parle de Dracula. C'est une reprise. C'est une nouvelle adaptation du Dracula, le célèbre roman de Bram Stoker.
Pour être un petit peu plus soigné quand même sur les...
Les descriptions?
Non, non, le bouquin. Mais oui, mais
c'est l'aspect...
C'est l'aspect qui est fait pour...
D'ailleurs, je sais ce que tu vas faire, tu vas aller regarder ce qu'il y a
en dessous. Ah ouais, alors il y a mais quoi?
De l'autre côté.
De l'autre côté?
Ouais. Voilà. T'as un petit jumpscare dans le bouquin. Bon. Pour comparer, on va résumer très rapidement Dracula. Qui veut se lancer? Est-ce que quelqu'un veut me résumer Dracula de Bram Stoker rapidement?
Bah en gros c'est un notaire qui doit se rendre en Transylvanie pour voir le comte Dracula et en fait c'est un piège et par la suite en fait on suit l'histoire juste avec des lettres qu'il envoie à sa promise et par la suite en fait Dracula se rend à Londres et il y a une sorte de chasse à l'homme sauf que c'est une chasse aux vampires mais.
Eh ben, c'est tout à fait ça. Hein. Effectivement, Dracula de Bram Stoker est un roman épistolaire dans lequel on suit ce notaire qui va se faire piéger par le comte, qui lui va arriver à Londres pour chasser et qui va finir par se faire chasser.
Et dont on recommande la lecture. Dont il,
oui.
C'est un roman qu'il faut lire, quoi. On ne peut pas ne pas avoir ne pas lire Dracula.
Je l'aurais pas lu de moi-même, mais c'était voilà. J'ai eu des contrôles dessus quand j'étais au collège.
Ouais. Ben moi, je l'ai lu tout seul et c'était génial.
C'est vraiment fabuleux Dracula. Oui. Alors, ce manga, puisque c'en est un, s'inspire du coup de Bram Stoker Dracula. Donc si le mythe du vampire est plus que souvent représenté sous la personne du comte Dracula, c'est que, sans nul doute, parce qu'il est une des figures les plus emblématiques du genre et qu'il a complètement cannibalisé l'imaginaire collectif à travers du roman de Bram Stoker ou de ses adaptations. On n'a pas assez de doigts pour compter toutes les adaptations où on entend parler de Dracula en lieu et place d'un vampire, hein, que ce soit en film d'animation, en manga, en papier, même dans des comics. Ici, l'histoire se situe toujours vers la fin du 19e siècle, mais elle est basculée dans une école de la jeune élite anglaise. Introduction. On retrouve un groupe de 4 garçons qui ont décidé de se moquer d'une de leurs camarades, une rouquine. C'est une jeune fille qui est du même établissement, mais qui semble douée d'une vivacité d'esprit que ses camarades semblent jalouser. À l'issue d'une farce dont elle est victime, elle va assister à l'agression de l'un de ses 4 adolescents par une violente créature avant de se porter à son secours.
Effectivement, là, ça change pas mal, là.
Et c'est pas tout. Le récit reprend les personnages principaux, au moins leur nom, et se permet un petit twist. Le genre de certains personnages est inversé ou bousculé. Par exemple, Renfield devient une femme. Je ne vois pas quel type de femme parce que ça spoil un petit peu. Et puis, Lucy Westerna devient Luke. Même si pour lui, son genre ne semble pas aussi fixé que ce qu'on voudrait croire. Quant à Mina Murray et Jonathan Harker, s'ils finissent conjoints dans l'ouvrage de l'auteur irlandais, eh ben désolé pour le spoil, hein, mais un bouquin qui a plus de 200 ans, j'ai quand même un petit peu le droit.
Tu peux, vas-y.
Eh ben ici, dans le manga, ils composent une fratrie orpheline.
Bon, mais ok, mais c'est utile ces changements?
Eh ben oui, parce que ça permet d'aligner le récit avec le public ciblé. Là, on est plutôt sur un public destination des adolescentes, selon moi, avide d'histoire romantico-horrifique. Alors déjà, parce qu'on retrouve un style graphique proche de celui des shoujo, avec des personnages grands, très fins, avec une sensation de fragilité, qu'on retrouve vraiment beaucoup dans les shoujo. L'auteur, ça lui permet d'ajouter des questionnements qui sont proches de notre temps et de ce public, comme des questionnements sur le genre ou la sexualité. Mais des adultes comme moi ou des adolescents garçons y trouveront tout à fait leur compte.
Ouais, ok. Enfin, je suis vraiment convaincue des changements de genre dans les adaptations. Enfin, dans le film Dune, par exemple. Moi, ça m'a pas du tout convaincu. Mais ok, pourquoi pas. Ça s'éloigne pas trop du roman.
Eh ben non. Oui et non, en fait. On retrouve quand même certains éléments du roman, notamment une première partie qui concerne la traversée du Déméter.
Hein? Le quoi?
Le Déméter, c'est le nom d'un navire.
On voit que t'as pas bien lu. T'as pas du bien.
Venant de toi, Luc. Moi, au moins, je sais lire mon prénom, d'accord?
Oh! Ça spoil. Ça se baffe. Pour son déménagement, avec les guillemets, avec les doigts, le comte Dracula embarque d'une manière un peu particulière sur le Déméter. Un navire qui arrivera vide de tout équipage à Londres. Si le roman suggère seulement ce qui s'est passé à bord du Déméter, d'ailleurs, il y a un film qui se passe uniquement sur le Déméter, qui s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter.
Pas ouf.
Mais je ne l'ai pas vu. Donc c'est une zone d'ombre du roman.
Je te le dis.
Le manga, lui, il apporte quelques éléments de réponse un peu plus concrets, sans pour autant s'apesantir sur les détails. L'auteur s'applique juste à montrer la nature de Dracula, qui à ce moment n'est toujours pas nommé. C'est un monstre insaisissable, protéiforme, qui pourrait être bien aussi un végétal qu'un virus ou toute chose indicible et mortelle. Et ce constat restera présent tout au long de ce premier tome introductif. Dracula est un monstre effrayant, mais reste une menace non identifiable. Et il ne sera identifié pour la première fois qu'à la toute fin du tome, néanmoins nommé. Graphiquement, c'est somptueux. C'est ultra détaillé, mais c'est normal. Son auteur n'est pas un débutant puisqu'il est reconnu depuis un moment déjà pour son trait fin et dynamique, mais surtout pour sa précision anatomique. Un dessin qui a déjà été salué sur ses deux séries précédentes, Innocent et Innocent Rouge, qui se penche sur l'illustre famille des bourreaux, les Sansons. Avec hashtag DRCL, Shinichi Sakamoto montre qu'il est toujours possible de renouveler le genre en twistant certains éléments, mais en gardant les thèmes qui ont fait leur notoriété. Son manga est aussi captivant que son aîné, et si le connaisseur cherchera les références et adaptations, le nouveau lecteur sera tout aussi captivé que je l'étais lors de ma première lecture du roman. Une sorte de fascination animale, comme si à travers l'ouvrage, le vil comte Dracula distillait sa présence maléfique. C'est donc à lire de toute urgence. Il s'agit de hashtag DRCL de Shinichi Sakamoto et c'est publié aux éditions Kiun.
Pourquoi le hashtag?
Ben, je sais pas, parce que du coup,
ça fait Jones.
Ben, et puis ça se passe au 19e, donc, il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. Je ne sais pas le hashtag pourquoi. Je pense qu'il y a plein petite chose qu'on va découvrir. Je parle de virus. On voit les passagers du Déméter avec les yeux un peu injectés.
Le hashtag DRCL.
Ouais. Pourquoi hashtag?
Ben, en fait, c'est Dracula.
Oui. Mais ouais. Vraiment, c'est le hashtag qui m'intéresse.
Ça fait très réseaux sociaux de maintenant ce hashtag-là. Alors que du coup, il absolument pas fait mention et c'est pas du tout la bonne période. Mais
il y a plein de choses à dire sur ce manga. Vraiment, le visuel. Je trouve qu'il fait dans l'ambiance. Parfois, ça, il y a certaines pages qui vont dans l'ambiance Lovecraftienne, je trouve. Et d'un autre côté, parfois, il y a des personnages très très féeriques qui vont ramener un équilibre avec cet univers très sombre. Et j'aime bien cette confrontation entre deux univers. Enfin, je trouve ça visuellement, c'est très beau. Il y a beaucoup d'obscurité sur certaines pages et parfois, c'est hyper lumineux.
Je pense que le terme qui convient bien, c'est le côté gothique. Mais le côté gothique romantique, on a cette espèce de d'idéalisation des personnes, tout en ayant ce côté très sombre, très dark, et qui marche très très bien. Mais c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le Dracula, tel qu'on nous le décrit comme un personnage qui peut être très séduisant, mais avec des transformations, là, on n'a vraiment qu'une bestialité.
Oui, effectivement, le côté séduction des vampires, il n'est pas du tout abordé, alors que...
Ça viendra peut-être. Mais dans le premier tome, pas ça.
C'est l'aspect charismatique et séducteur des vampires, c'est un des aspects vraiment qui s'est beaucoup ancré dans la culture populaire.
À partir de Dracula,
avant. Et là, il se fait pas du tout ressentir. Donc c'est surprenant.
Toi, Luc, tu parlais du Nosferatu. Le Nosferatu, le côté romantique et séduisant, il y a pas du tout. C'est une bête assoiffée de sang, basta.
Oui, mais c'est une bête assoiffée de sang, mais d'abord c'est une bête qui vit un drame terrible qui est séduisante. C'est son drame qui est séduisant, c'est pas son apparence, c'est son drame qui est séduisant. Et c'est ça qui fait que la femme, en l'occurrence, à un moment donné, se laisse mordre parce qu'à un moment donné, la séduction, elle est au-dessus. C'est toute la complexité de Dracula, elle est là. Enfin, elle est. C'est pas qu'un monstre, en fait. C'est un monstre qui, en fait, subit son état de monstre. Et qui presque voudrait s'en émanciper, hein. Qui voudrait, alors il vit la nuit dans ce cercueil, enfin quand on arrive en Transylvanie, etc. Mais c'est quelqu'un qui veut, à mes yeux, hein, c'est quelqu'un qui veut, et c'est ce qui fait toute la beauté de ce roman, qui veut s'émanciper, mais qui peut pas s'émanciper puisque c'est un vampire. De toute façon, il pourra pas s'émanciper. Il pourra que contaminer les gens autour de lui, mais il pourra jamais s'émanciper. Donc non, là c'est là, je voyais même un dessin là, on est presque chez Dali, quoi. Enfin, il y a un moment donné les personnages tu vois,
c'est un passage presque de folie. Ouais,
c'est complètement fou.
Le passage que tu montres, en fait, on ouais. a une espèce de créature qui a été retravaillée un petit peu, et puis on a en gros un personnage humanoïde mais dont on cache le visage, et on est là dans une projection, en fait, l'esprit de Renfield qui Alors, si vous avez lu le roman, Renfield est complètement dévoué à son maître, qu'on ne connaît pas au départ, et là, on est complètement dans son esprit, et elle annonce, en fait, parce que c'est un personnage féminin dans le manga, que son maître arrive et que son maître est proche.
Et il y a combien de tomes prévus, alors?
Eh ben, je ne sais pas. Je sais que j'ai pas regardé. Richard, notre expert technique. Mais c'est tout récent, ça vient de sortir. Il y a eu une grosse annonce parce que Sakamoto, Innocent et Innocent Rouge ont été deux vrais cartons. Si vous avez l'occasion de les lire et que vous avez envie de parler de Révolution française, bah, allez-y, parce que ça vous la montre sous un angle très très différent. Ne confiez pas ça aux enfants de moins de 15 ans. Innocent Rouge... En rouge, c'est parce que c'est un manga, mais c'est la coloration qu'on peut mettre sur quasiment toutes les pages. Mmh. On découvre en fait Charles-Henri Sanson étudier son métier.
C'est plus hard que la série de Boris Beuzelin.
Ouais,
d'accord.
Ouais, c'est pas hard pour être hard. Mmh. C'est hard pour être précis, en fait. Mmh.
Mmh. C'est sorti au Japon en 2020. Il y a 4 tomes. C'est toujours en cours.
Ok, donc pour l'instant c'est une série qui est pas trop longue. L'auteur, si on compare avec ses séries précédentes, Innocent ça devait être 12 tomes et Innocent Rouge c'était 6 tomes. Donc on sera pas forcément sur une série hyper longue.
Et le site Manga News donne à peu près l'âge 14 ans pour le lire.
Ouais, il faut quand même que les enfants aient une certaine maturité,
ouais,
selon.
Ouais. Mais voilà, je te dis.
Non mais voilà, il faut. Ok. Donc, hashtag DRCL, c'est chez Kiun et c'est de Shinichi Sakamoto. Donc, et c'est vraiment très très bien. Allez-y. Passez les deux premières pages. Sur les deux premières pages, je me dis, ouais, c'est quoi ça? Mais c'est un autre problème. Complètement autre chose pour finir. On va rester dans du manga, mais pas tout à fait, puisqu'on va chez Panini Comics, dans la collection Panini Manga, et on va parler de Spider-Man en manga.
On pourrait reprendre le début de ta chronique.
Oui.
Il est possible de renouveler l'adaptation d'une œuvre déjà adaptée de nombreuses fois.
Et de renouveler le renouvellement.
Oh, ouais. Parce que
là... Et ben là, en l'occurrence, la réponse, elle est oui. Je vais pas vous décrire la couverture.
Dit-il en tenant l'album à deux mains.
Non, mais, honnêtement, ça marche très très bien. Je vous décris juste un tout petit peu la couve. On a Spider-Man dans sa position la plus classique, comme ça. Et Panini a fait un truc avec le vernis sélectif, puisqu'on a juste la toile en vernis sélectif. Et ils ont refait la même chose derrière, qui part de la main. Ce qui rend le truc très très joli.
J'avoue. T'as vu?
Oui.
Mais là, l'histoire, c'est du Spider-Man. Ça s'appelle Fake Red. Pour une raison assez simple, c'est qu'on va pas suivre Spider-Man. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va trouver un jour un costume de Spider-Man à côté d'une poubelle. Alors, pour les connaisseurs de Spider-Man, il y a un moment où effectivement Spider-Man se débarrasse de son costume, parce qu'il en a un nouveau un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui advient de ce costume? Ben, on sait pas trop. Et en fait, on va suivre ce jeune garçon qui est adepte de l'alpinisme, qui est plutôt réservé, plutôt renfermé, et qui va trouver ce costume, et qui, à un moment, va décider de l'essayer, et de se jouer à l'apprenti héros. Alors que le gros mojo de Spider-Man, c'est quand même un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là, lui, il a pas de pouvoir, mais est-ce qu'il a quand même les responsabilités? Parce que est-ce que l'habit fait le moine? Enfin, voilà, on pourrait filer la métaphore longtemps, mais et lui, bah, il va quand même essayer de sauver des gens dans une maison en flammes alors qu'il a pas de pouvoir, donc il passe par les escaliers. Alors tout le monde l'attend à ce qu'il grimpe sur le truc. Au moment de sauter, bah, il va essayer de sauver la personne et il se fait rattraper par les pompiers. Bien sûr, le lendemain, il est couvert de bleu, il y a rien qui va, il est complètement vanné parce qu'il a fait un truc que personne ferait en temps normal. Mais ça va lui donner une certaine confiance en lui. Et ça lui permet de grandir mentalement sur ce personnage très réservé, quoi. Et il va se rendre compte que d'autres personnes peuvent aussi s'intéresser à lui, pas forcément parce qu'il peut être Spider-Man, mais parce qu'il peut avoir confiance en lui. Et ça marche bien. On se rend compte que ce jeune gamin, bah, il a qu'une envie, c'est de bien faire. Quand il y a des méchants, des vilains de Spider-Man qui commencent à débarquer, ben on se dit ouais, mais il va pas pouvoir tenir face à des gens comme ça. Et à ce moment-là, on se retrouve avec d'autres personnages de l'univers de Spider-Man qui commencent à arriver et qui vont interagir avec lui, tout en sachant qu'il n'est pas Spider-Man, parce que le Spider-Man en question, il semble avoir disparu. Et ça marche bien. J'ai trouvé que ça faisait plaisir en fait d'avoir du comics en version manga qui utilise les codes du manga sans vouloir essayer de faire du comics. Et ça marche suffisamment bien pour qu'on puisse s'y intéresser et se dire moi j'aimerais bien avoir d'autres aventures de ce personnage, quoi. Chose qui normalement ne devrait pas arriver puisque
c'est un one shot.
Mais c'est une bonne introduction aussi à l'univers de Spider-Man. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir certains des personnages sans forcément rentrer dans les détails. Ça peut vous donner envie d'aller chercher aussi d'autres univers de Spider-Man, ce qui est plutôt cool. On dit que c'est un one-shot, mais il n'est pas dit que ce soit pas un personnage qu'on croise dans Spider-Verse ou des films d'animation.
C'est le principe du Spider-Verse, hein, c'est que tu peux voir tout. Hein.
On peut quasiment tout faire.
Tout le temps.
Oui.
Et donc ça marche bien. Graphiquement, c'est plutôt cool. C'est un dessin qui est globalement assez classique, mais il y a beaucoup de décors, il y a pas mal d'action. La mise en page, elle est plutôt cool, et c'est ponctué de petites références au Marvelverse un petit peu partout. Alors, il y a à la fin quelques pages qui nous disent au fait, est-ce que vous avez vu à telle page telle référence ? Petit message chez Panini Manga, si vous dites « Est-ce que vous avez vu à telle page, telle référence ?» mettez en bas des pages le numéro des pages. ça marche sur un bouquin qui fait 40 pages, mais là, on est sur un tome qui fait facilement 200 pages. S'il faut qu'on compte les pages pour aller chercher la référence, c'est un peu relou.
Il n'y a pas le numéro quelquefois ?
Jamais.
Jamais ?
Ah oui.
Jamais, jamais.
C'est bon plan. Moi, je trouve que c'est un bon plan.
Ah bah ça occupe les enfants. Et t'as vu la page 94? Allez, on va compter les pages.
Je trouve que t'es exigeant quand même là.
Eh ouais, je sais bien. Non mais c'est un bon bouquin, c'est accessible, c'est plutôt tout public, même si effectivement faut quand même un niveau de lecture correct. Donc 12 ans, ça marche bien. Mais ouais, voilà, le manque de... Bon, après, les plus grands fans de Marvel vont retrouver certains indices, certaines choses, mais...
Voilà. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Hein.
Il y a un numéro de page ?
Il y a, bah, en fait, t'as des chapitres,
ouais.
Et t'as le sommaire où il est indiqué, bah, en fait, le chapitre commence à telle page, donc après, tu peux deviner à peu près.
Ouais, c'est vrai.
Et ça sollicite l'intelligence du lecteur.
Voilà, ouais, faut savoir compter. Voilà. Alors, compter et lire, je sais que.
Moi, déjà, s'il n'y a pas d'image, je ne lis pas. Donc, s'il faut compter en plus. Hey,
par contre, je remarque qu'il y a il y a 4 pages colorées. Non, 3 pages colorées au milieu.
Ouais.
Mais il y en a plusieurs des pages colorées. Hein. Il y a plusieurs.
Ah, ouais,
il y a plusieurs passages.
Il y a plusieurs passages qui sont colorés. Oui, oui.
C'est pas commun, normalement. Un manga, c'est au début.
Bah, ça dépend. Ça peut arriver, en fait, d'avoir des.
Qu'est-ce qu'il a dessiné ?
Qu'est-ce qu'il a dessiné?
J'ai perdu son nom.
Et oui.
Juste sur la couve.
Sur la couve. Scénario et dessin de Yusuke Osawa.
Parce qu'effectivement, sur toutes les planches couleurs, enfin toutes les planches couleurs sont vraiment la reprise des comics. Enfin, on est vraiment sur du dessin de comics. Hein. Ouais. On n'est plus dans du dessin de manga. On est sur du dessin de comics, la reprise traditionnelle, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, il a essayé de faire des covers, en fait, comme on peut les voir sur certains albums, qui souvent, effectivement, comme le disait, il parlait des pages couleurs au début de manga. Dans les comics, souvent, on a une galerie de covers sur les variantes covers plutôt à la fin. Mmh. Donc là, il s'est dit, on va les mettre au milieu. Mmh. Ah, voilà.
Bien, bah, écoute. Donc, on peut refaire pour une énième fois refaire une histoire une énième fois. Voilà.
Ouais. Et tout en changeant l'angle en fait et les intentions.
Vu que ce n'est pas vraiment Spider-Man, ce n'est pas vraiment Peter Parker.
Non.
Est-ce qu'il y a les mêmes tropes comme quoi il perd son oncle, tout ça?
Non, non, parce qu'en fait, on suit quelqu'un qui va prendre le costume de Spider-Man, ouais, voilà. En fait. C'est pas, y a pas, il a vraiment pas de super pouvoir et c'est juste que, bah, il trouve un costume.
Ok.
Et est-ce que.
L'habit ne fait pas le moine.
Voilà.
Mais l'habit n'est pas habité par le personnage du vrai Spider-Man.
Non. Okay. Même si, effectivement, il peut lancer des toiles parce que on est sur la version où il y a des lance-toiles.
C'est ça.
C'est pas une mutation qu'il a, mais il y a tout ce passage où justement il doit poursuivre quelqu'un et qu'on lui dit bah mais passe par les toits, c'est plus simple. Il fait, bah, je vole pas, hein, si je tombe je meurs. Mais du coup il se lance et voilà, okay. Ça marche très bien.
Ok,
très bien.
Bon, y va l'où ?
Donc c'était Spider-Man Fake Red, c'est ça, hein, Fake Red de Yusuke Ozawa
et c'est publié chez Panini Manga.
Voilà.
Ouais.
Avec une référence à Marvel.
Ouais. Bah c'est en fait Panini édite quasiment tous les Marvel.
Très bien.
Ils ont habituellement Panini Comics, mais ils ont toute une section manga que je connais déjà beaucoup moins et je me dis que c'était aussi la possibilité de mettre en avant quelque chose qu'on voit moins.
OK. On se fait un petit récap ?
Un petit récap. Hein.
Allez,
on commence avec on a commencé par parler de Limbo Hotel, publié aux éditions Spaceman Project par et réalisé par Enrique Fernandez.
Oui, on a continué avec Eizouken, pas touche à nos animés, de Sumito Ohara chez Nobinobi.
On a parlé de Le Dictateur et le Dragon de Mousse de Tillon et Freeway à la boîte à bulles.
On a parlé de Trickle.
C'est hashtag.
Excusez-moi, hashtag Trickle.
Mais non, DRCL. Enfin.
Laisse-moi faire ma blague, s'il te plaît. Ça a marché, Lucas rit, j'ai gagné. Hashtag Dracula, mais sans les voyelles, Midnight Children, tome 1, de Shinichi Sakamoto. Les lettres sont effacées sur la couverture pour appuyer l'effet de vieillesse, j'adore. Et aux éditions...
C'est Kiun.
Kiun, tout à fait.
Et puis on a fini en parlant de Spider-Man Fake Red de Yusuke Ozawa, publié chez Panini Manga. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. De toute façon, on avait fait le résumé déjà.
Oui.
Donc voilà. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle case de Seb. La semaine prochaine pour les voix du scénarium de 20h à 21h. On retrouve Luc dans 15 jours. Tu nous parleras de quoi, Luc ?
Suspense.
Ok, suspense. D'accord.
Là, c'est trop fort.
Suspense.
Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le podcast dans quelques instants dès qu'on aura terminé l'émission sur le www.radio-g.fr. Oui, plaît-il ?
Je viens de dire les voix du scénarium de 20h à 21h.
Oui.
C'est pas ça, hein ?
C'est de 21h à 22h ?
Bah oui.
Eh ben de 21h à 22h. Après, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on publie plein de trucs. Allez, c'est tout pour ce soir et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trop vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes là-bas!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini!